Coulisses politiques avec Henri Vernet.
La candidature de Marine Le Pen à la présidentielle suspendue au verdict d'un procès en appel. Si elle était confirmée, sa condamnation pour détournement de fonds européens assortie d'une peine d'inéligibilité pourrait l'empêcher de se présenter en 2027. En coulisses, le Rassemblement national se prépare déjà à une alternative. Son président, Jordan Bardella, mais au-delà de la question judiciaire, une autre se pose. La politique étrangère du RN serait-elle la même avec Jordan Bardella et avec Marine Le Pen? Entre souverainisme, rapport à l'Union européenne, à l'OTAN et à la guerre en Ukraine, le parti affiche une ligne officielle identique. Mais aussi, il y a des nuances de génération et de style. C'est cette ligne et ses possibles évolutions que nous allons notamment décrypter. Bonjour, je suis François-Xavier Decalonne, Coulisses politiques, c'est une émission et un podcast disponible sur votre radio, Radio Orient, sur Spotify, radioorient.com et vos réseaux sociaux. Comme chaque semaine, nous retrouvons Henri Vernet, journaliste, écrivain. Bonjour.
Bonjour.
Henri Vernet. Tout d'abord, que reproche-t-on, que reproche la justice à Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européens, précisément ?
D'avoir mis un système qui revenait à détourner de l'argent public, donc de l'argent public européen, c'est-à-dire la somme qui est allouée à chaque député européen pour payer son personnel. Donc à l'époque des faits reprochés, cette somme, elle équivalait à un peu plus de 23 000 euros par député, donc vraiment destiné à payer du personnel. Or, il se trouve que ce qui est reproché, c'est d'avoir mis un système d'emploi en place, un système d'emploi fictif, c'est-à-dire que ces assistants parlementaires auraient été non pas employés au service de leur député européen, mais au service du parti, le Front National, devenu le Rassemblement National en 2018. Et évidemment, c'est important parce que entre l'élection de 2009 européenne et les européennes de 2014, eh bien, le parti va avoir un nombre de députés très conséquent. Il va passer à une vingtaine d'eurodéputés, ce qui évidemment suppose des sommes importantes. Alors, dans le premier procès, en première instance, Marine Le Pen avait utilisé une formule. Elle disait qu'en fait, il s'agissait de mutualiser les assistants parlementaires. En gros, ils n'auraient pas, dans l'esprit du Rassemblement national, été affectés à tel ou tel élu, mais au profit de tous, ce qui justifiait un petit peu cet emploi, disons, très hasardeux des fonds publics, ce à quoi la présidente du tribunal avait alors répondu, avant bien sûr de condamner tous les élus assistants parlementaires et cadres du parti qui avait été poursuivi en première instance. Avant de les condamner, elle avait parlé non pas d'une mutualisation des assistants, mais d'une mutualisation des enveloppes, hein, parce que cet argent donc circulait vraiment tout à fait pour autre chose. À titre d'exemple, le garde du corps historique de Jean-Marie Le Pen, puis du RN de manière plus générale, Thierry Légier, faisait partie d'assistants parlementaires alors qu'il était garde du corps à Paris, à Saint-Cloud, où on voudra, mais en rien assistant parlementaire à Strasbourg ou à Bruxelles.
Et c'était un système qui était propre au Rassemblement national ou est-ce que d'autres partis ont été accusés ?
Non, d'autres partis, en tout cas, il y en a qui ont été pris la main dans le sac,
si je puis dire,
à commencer par le MoDem de François Bayrou, où il y a là, alors François Bayrou lui-même avait été relaxé, mais en revanche, des élus de son parti ont été condamnés. Alors, cela dit, à des peines beaucoup plus légères, parce que les sommes en jeu n'étaient pas du tout comparables. Il s'agissait en gros d'un peu plus de 300 000 euros ainsi détournés pour le MoDem, du Parlement européen, alors que pour le RN, on parle là quand même de sommes supérieures au total à 4 millions, entre 4 millions et 4 millions et demi d'euros sur l'ensemble de la période.
Ce qui peut expliquer une sévérité plus importante de la peine. Ce procès en appel, l'enjeu politique semble nettement plus important, plus décisif que lors du premier jugement.
Alors déjà, le premier jugement était dans un sens décisif, sauf qu'un premier jugement dans nos démocraties n'est jamais définitif. Mais pourquoi je dis décisif ? Parce que dès ce premier jugement, il ôtait en théorie toute perspective à Marine Le Pen d'être un nouveau candidat à la présidentielle, ce serait la quatrième fois, en 2027. Pourquoi ? Parce qu'en mars 2025 ont donc été prononcées les peines que vous avez rappelées, 4 ans de prison, dont 2 fermes, et surtout cette inéligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire qu'elle devenait immédiatement applicable de 5 ans, ce qui évidemment rendait impossible toute nouvelle candidature. Donc tout l'enjeu de ce procès en appel pour le RN et pour sa figure tutélaire Marine Le Pen, c'est d'espérer une condamnation qui soit moins sévère que la première fois. Alors évidemment une relaxe, mais ça elle-même ne croit pas du tout à une relaxe en appel, ni son entourage, mais donc une condamnation moins sévère, c'est-à-dire qui serait par exemple une inéligibilité moins longue, par exemple 2 ans ou 1 an, voire pas d'inéligibilité du tout assortie. Bref, en tout cas, un jugement qui lui permettrait de garder encore espoir pour elle de pouvoir se présenter à la prochaine présidentielle.
Donc l'enjeu, on l'a compris, est bien entendu politique. C'est pour ça que le RN dénonce un procès politique.
Plus tout à fait, justement. Et même, on pourrait dire, plus du tout. Le RN a complètement changé de stratégie.
Il l'a dénoncé lors du jugement.
Il l'a dénoncé en première instance, un procès politique. C'était une stratégie qu'on peut vraiment désigner comme une stratégie populiste, de jouer en quelque sorte la politique, l'opinion contre les juges, en disant quoi ? En disant que le Parlement européen, à l'époque, n'avait aucune légitimité pour contrôler l'emploi des sommes allouées aux eurodéputés RN. D'abord aussi en niant les faits, en disant que tout cela était faux, alors que vraiment le dossier a été depuis établi. Il faut bien se rendre compte qu'il y a eu plus quasiment 10 ans d'enquête, parce qu'en réalité, les premières plaintes, elle tombe en 2015. Donc, et la première mise en examen à ce sujet de Marine Le Pen remonte aussi à 2017. Donc l'enquête est vraiment longue. Mais donc vraiment, c'était sans jeu de mots une stratégie frontale qu'avait adoptée Marine Le Pen vis-à-vis de la justice et également à grand renfort d'effets de manche devant les caméras, au tribunal. Et immédiatement après la sentence, qui était donc tombée le 31 mars 2025, quelques jours après, il y avait eu un rassemblement populaire, donc vraiment pour signifier que le pouvoir, que les juges n'avaient pas à se dresser devant les politiques, et donc devant les politiques, mais en tout cas devant la volonté du peuple.
C'était comme après la condamnation de Nicolas Sarkozy, même si l'affaire est tout autre.
Exactement, ça c'est vraiment un réflexe qui est extrêmement dommageable chez les politiques, alors pas qu'en France, mais quand même beaucoup en France, où vraiment on se permet de, et c'est très populiste comme stratégie, on se permet d'opposer une espèce d'immunité qui viendrait comme ça de l'onction du suffrage par rapport tout simplement à la justice, justice à laquelle sont soumis tous les citoyens.
Juste Henri Vernet, imaginons, Marine Le Pen est élue, la Cour de cassation se prononce, elle décide l'inéligibilité, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, il y a plusieurs aspects dans votre question. Alors, pardon, parce que c'est vrai que c'est assez complexe, mais c'est vrai que c'est important pour les auditeurs de bien s'y retrouver. Imaginons que là, le jugement en appel, on le connaîtra a priori en juin, en tout cas avant l'été, c'est ce qui a été communiqué par les instances judiciaires. Imaginons donc que la peine soit confirmée, mais moins importante, c'est-à-dire une inéligibilité, par exemple, de 1 an. À ce moment-là, ça lui laisserait le loisir de se présenter au scrutin présidentiel de 2027. Ou alors, comme vous le dites, que la peine reste la même, mais que là, Marine Le Pen, condamnée, se pourvoie en cassation pour toujours pouvoir éventuellement se présenter à cette élection. Alors, dans ce cas, la Cour de cassation, également par communiqué, a fait savoir qu'elle s'efforcerait de rendre sa décision dans les plus brefs délais, et donc ça pourrait, en théorie, eux-mêmes disent bien en théorie, ça pourrait en effet tomber, cette décision définitive pour le coup, celle de la Cour de cassation, si jamais elle devait venir, avant la présidentielle. Alors, sauf qu'il y a une nuance importante, c'est que Marine Le Pen elle-même a déjà dit que dans ce cas-là, a priori, elle n'attendrait pas. Que là, s'il y a condamnation, alors elle le dit, elle ne le formule pas comme ça, mais en quelque sorte, elle le jetterait l'éponge et elle passerait le relais à Jordan Bardella. Et il y a des raisons vraiment objectives à cela. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vivre comme ça avec une candidature. Quand je dis vous, c'est-à-dire à la fois la candidate, mais également son remplaçant putatif, c'est-à-dire Jordan Bardella, et également le RN, avec cette espèce d'épée de Damoclès, parce qu'il n'y a pas que le scrutin lui-même, qui donc interviendra a priori en avril-mai 2027. Il y a toute la préparation, il y a la campagne, c'est primordial. Vous ne pouvez pas faire campagne pour un parti avec un candidat dont on ne sait pas si c'est l'une ou si c'est l'autre. Il faut aussi rechercher les parrainages. Vous savez, les fameux 500 parrainages, parrainage qu'il faut pour pouvoir être candidat agréé par le Conseil constitutionnel à la présidentielle. Et ça, les parrainages, on le sait bien, c'est pas si facile, même aujourd'hui, après des années de banalisation, dédiabolisation, comme on voudra, du RN, ce n'est pas si facile pour ce parti, à chaque fois, d'avoir ces 500 parrainages. Donc bref, tout ça, ça prend du temps, et en réalité, le fait de savoir qui portera les couleurs du RN de Bardella ou de Le Pen, il faut que cette question-là soit tranchée dans les mois qui viennent.
Alors si Jordan Bardella était candidat, est-ce que le Rassemblement National pourrait gagner en respectabilité, en changeant de visage et surtout avec un candidat qui, pour la première fois, ne porterait pas le nom de Le Pen?
Le fait de ne pas porter le nom de Le Pen, vous avez raison, c'est quelque chose qui est important. Parce que c'est vrai que quelque part, il y a une charge... Alors, évidemment, positif pour les uns, pour les aficionados, mais quand même, aux yeux des Français, assez négatif qui est attaché à ce nom, parce que c'est celui du fondateur, Jean-Marie Le Pen, avec toute la brutalité qu'il a pu avoir pendant des années, avec ses sorties antisémites, ses sorties xénophobes, d'ailleurs multi-condamné lui-même pour ces raisons-là. Donc, évidemment, Marine Le Pen, elle a eu beau mener cette entreprise de dédiabolisation, de normalisation, et elle y a en bonne partie réussi, c'est vrai qu'une étape encore supplémentaire serait sans doute franchie avec un champion, entre guillemets, donc du RN, qui ne porterait pas ce patronyme.
Henri Vernet, hein, rappelons que la Défense, maintenant, affirme que ce qui s'est passé n'était pas intentionnel. Voilà la réponse du Rassemblement National. Malgré ce procès, ce parti et ses idées continuent de progresser dans l'opinion, particulièrement à droite. Le baromètre annuel du cabinet d'études et de conseils Verion pour Le Monde indique qu'il y a un équilibre entre la construction et sa crédibilité gouvernementale qui continue de se solidifier et la rassurance sur le fait qu'il puisse incarner une rupture. Ce n'est plus un vote de colère, mais de solution. On ne parle pas d'adhésion là, mais de solution. Avant d'analyser ce changement avec vous, Henri Vernet, nous avons joint le porte-parole du Rassemblement National, le député RN Philippe Ballard.
Solution, adhésion, les deux se tiennent. Si vous voulez, si on prend tous les dossiers les uns après les autres, les faits, j'ai envie de dire malheureusement, nous donnent raison, que ce soit sur le plan économique, sécuritaire, d'immigration, de la défense de notre identité. Les Français ouvrent les yeux et regardent ce qui se passe. Enfin, quand on est à 118% par rapport au PIB de dette, Emmanuel Macron qui l'a accru de 1300 milliards, on est à un total de 3400 milliards, une situation budgétaire totalement hors de contrôle, la mondialisation qu'on nous a rendue heureuse est qu'un cauchemar, enfin notre textile, industrie textile a disparu depuis belle lurette, notre sidérurgie, notre agriculture est en mauvaise position, bientôt la chimie, l'industrie automobile, l'industrie pharmaceutique, enfin voilà. Tout ça, les Français ouvrent les yeux, voient que ce que l'on leur vend depuis 45 ans, ça ne fonctionne pas. On leur parle jamais de tailler dans les dépenses structurelles de l'État, ce que nous ferons une fois arrivés à la tête de l'État. Et puis en matière d'immigration, 500 000 entrées par an, une insécurité qui ne fait que grandir. Enfin voilà, tout est sur la table pour que, les Français ouvrent les yeux et nous font de plus en plus crédit de ce que l'on pourrait faire à la tête de l'État. Cela dit, il n'y a pas qu'en France où on assiste à un tel mouvement. Si vous prenez l'Europe, il y a beaucoup de pays européens qui épousent la même tendance.
Le député RN Philippe Ballard, porte-parole du Rassemblement National. Ce catastrophisme, cette vision sombre du pays, c'est une des marques de fabrique du Rassemblement National ?
Ce qui est certain et ce qui a vraiment changé, c'est qu'aujourd'hui, ils ne font plus peur. Et le baromètre que vous avez évoqué montre cela. Il n'y a il y a 41% des Français qui seraient effrayés par une possible victoire à la présidentielle du RN. Mais ce sont des chiffres incomparables avec ce qui avait cours avant. Alors, en réalité, leur atout, c'est quoi ? C'est justement ça. C'est-à-dire que, comme ils n'ont jamais vraiment été au pouvoir du pays, ils n'ont jamais détenu les commandes, c'est vrai qu'ils ont beau jeu de dénoncer, de décrier, de dénigrer tout ce qui, à droite comme à gauche, ont été au pouvoir et qui n'ont en fait jamais véritablement résolu les problèmes. Au contraire, on voit bien dans quelles difficultés se débat la France, que ce soit sur le niveau financier, économique, sans parler du chaos politique actuel. Donc voilà, ils arrivent avec cette idée, avec nous ce sera différent. comment ce sera différent. On entend bien, écoutez Philippe Ballard, que les solutions, elles ne sont pas très précises. On ne sait pas exactement ce qu'il pourrait présenter. Par exemple, sur les retraites, entre les deux campagnes présidentielles de Marine Le Pen, les deux dernières, entre même les dernières campagnes législatives, on ne sait pas exactement ce qu'il propose. Je parle de cette question des retraites parce que c'est celle qui agite quand même le débat depuis pas mal de temps. En matière, par exemple, de réduction des déficits, oui, là, il aligne quelques idées, mais d'autres pourraient le faire. Enfin, quelques constats. Ce sont avant tout des constats, des dénonciations contre chose. Donc, c'est vrai que le programme, la ligne programmatique du RN, on ne la connaît pas vraiment. Et donc, c'est vraiment ce sur quoi il faudra que ce parti travaille. Et c'est d'autant plus crucial que, est-ce que justement, ce sera une ligne Marine Le Pen, comme ça a été jusqu'à présent, c'est-à-dire une ligne quand même, disons, plus populiste au sens large, c'est-à-dire qu'elle veut mordre un peu dans tous les électorats, et donc il y a toujours quand même un fond social assez prononcé.
Et puis bien sûr, là, elle est beaucoup plus libérale.
Oui, alors est-ce que c'est du vrai libéralisme? Vous savez que certains patrons, en tout cas à droite, certains en doutent un peu, mais c'est vrai, incontestablement, c'est quelqu'un notamment qui fait d'ailleurs beaucoup d'opérations de séduction auprès des chefs d'entreprise. Il les rencontre régulièrement, parfois d'ailleurs avec Marine Le Pen, entretenant ce doute sur la candidature.
Ils l'ont reconnu, hein, d'ailleurs, tous les deux.
Oui. Absolument. Mmh. Il y a cette tentative de rapprochement, mais c'est vrai que donc, sur ces grands enjeux, eh ben, on sait pas. Il y a toujours cette idée, vous savez, RN du Nord, hein, donc c'est plutôt celui de Marine Le Pen, c'est-à-dire la fibre le plus populaire, quoi, qui est vraiment confrontée aux difficultés, et la ligne du Sud, donc l'autre partie de la France, qui serait en effet plus portée vers la liberté de commerce, vers en gros davantage de libéralisme, comme vous dites. Mais en tout cas, ce qui les unit et ce qu'on trouve vraiment en numéro un dans ce parti, bah, c'est quand même la priorité nationale, hein, que ce soit la priorité à l'emploi, la priorité aux aides sociales de l'État. Donc c'est vraiment cette préférence nationale.
Les sentiments les plus cités pour évoquer le RN dans l'étude que nous évoquions ensemble, c'est la peur et l'espoir. Alors, la peur, bien entendu, pour ceux qui votent contre, l'espoir pour ceux qui y adhèrent. Mais qu'est-ce que cela nous dit de la réaction potentielle de la société en cas de victoire de ce parti en 2027?
Mais c'est vraiment difficile à dire, parce que vous avez raison de poser la question. Mais regardez ce qui se passe à l'étranger. Par exemple, aux États-Unis, où on avait dit ça en 2020 en cas de réélection de Trump. Alors, on a bien vu, d'ailleurs, la tentative quasiment de coup d'État en janvier devant le Capitole, mais 4 ans plus tard, bah, il revient avec, c'est un Trump qui est totalement surdimensionné, gonflé par rapport à ce qui était au premier mandat, et la société américaine, pour l'instant, bah, il n'y a pas de guerre civile, elle tient. Qu'est-ce qui s'est passé en Italie? En Italie, c'est quand même Madame Meloni, Giorgia Meloni, c'est l'héritière d'une tendance d'extrême droite très affirmée, revendiquée comme telle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une guerre civile en Italie? Est-ce que la population se déchire? Absolument pas.
Avant l'arrivée de Giorgia Meloni, il y avait eu des membres d'extrême droite au sein du gouvernement italien. Ce n'est pas le
pas
cas.
De son parti. Pas de ce parti qui était quand même vraiment extrémiste. Oui, c'est vrai. Il y avait.
Il y a une tradition. La France est moins préparée à cela. La société française, dans tous les cas.
Alors, vous avez raison, mais sauf que il y a des grandes villes. Perpignan, Louis Alliot, qui est d'ailleurs concerné par le procès qu'on évoque, il est quand même maire de Perpignan et rien ne dit qu'il ne le reviendra au prochain municipale. Ils ont contrôlé Fréjus. Alors là, en revanche, le maire ne se représente pas, mais ils ont, par exemple, de bons espoirs à Toulon. Je veux dire qu'il y a quand même cette habitude du RN dans le paysage politique, non seulement politique, mais même de gestion de collectivités en France. Et puis encore une chose, hein, donc Marine Le Pen, elle a été quand même deux fois finaliste à la présidentielle, mais surtout, rappelez-vous, les régionales. À deux reprises, le RN a failli prendre des régions. Donc, quelque part, ça s'installe. Je comprends, bien sûr, que ce serait une première d'avoir la représentante ou le représentant, comme désormais ça semble quand même le plus probable, en tout cas comme candidat, hein, je ne dis pas du tout comme gagnant de l'élection présidentielle, mais en tout cas comme représentant. Bon, eh bien, si on avait ce cas de figure à l'Élysée, je pense que oui, le pays serait troublé, oui, le pays serait secoué, oui, le choc politique, sociétal, culturel serait énorme. Néanmoins, est-ce que le pays partirait donc dans un aventurisme politique total, une société qui se déchirait ? Je ne suis pas sûr quand on voit...
On se souvient, après les législatives, après le premier tour des législatives, après la dissolution d'Emmanuel Macron, quand le RN semblait favori pour aller à Matignon, on se souvient de la libération de la parole raciste dans de très nombreuses petites villes françaises. C'est-à-dire que ce parti qui n'affiche plus des idées aussi radicales que plusieurs décennies précédentes, la société peut, elle, se sentir autorisée à commettre des actes particulièrement répréhensibles.
La société française, elle est extrêmement sous tension, hein, comme beaucoup d'autres sociétés. Mais c'est vrai, vous avez raison, il y a beaucoup de paroles. Alors moi, j'aime pas quand on dit libérer, parce que c'est quand même de la parole qui est néfaste, il faut bien le dire. Alors évidemment, on va pas imposer aux gens ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent dire. Mais quand même, ce serait bien de rester, alors pas forcément dans la mesure, mais quand même dans une considération, dans un respect des uns et des autres. J'allais dire dans une sorte de cultiver quand même plutôt le vivre ensemble que les antagonismes, mais je sais bien qu'en disant ça, on peut totalement passer pour naïf. Mais c'est vrai, il y a ce phénomène, vous avez entièrement raison. Bah, il faut dire aussi que les premiers qui l'ont encouragé, c'est quand même beaucoup de candidats RN eux-mêmes, hein, qui ont été rappelés à l'ordre et aux dernières législatives, parce qu'on a quand même trouvé des numéros, enfin des sacrés numéros assez inquiétants, hein, parmi les candidats qui sont allés pêcher comme ça à la va-vite, parce que la dissolution, elle a été improvisée, donc il fallait bien trouver des candidats. Là, ils disent que pour les prochaines législatives, ce serait plus le cas, que tout cela a été un peu soigné. Mais de toute façon, il faut être juste. Hein. La parole aujourd'hui, totalement, alors moi je dirais pas libérée, je dirais décomplexée, la capacité à dire à peu près n'importe quoi, à provoquer un peu dans tous les sens, elle est plus l'apanage du Rassemblement National. On l'entend, regardez, on l'entend même au sein même de l'Assemblée Nationale. Vos questions, là, ça m'amène surtout à dire que pour 2027, ce qui devient évident, c'est qu'il faudra une vraie campagne présidentielle, une vraie campagne de débat avec de vrais sujets. Parce que je pense profondément qu'une des raisons pour laquelle on en est là aujourd'hui, devant cette espèce de gabegie, de chaos politique, c'est bien parce qu'il n'y a pas eu de campagne présidentielle en 2022. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, d'abord, il s'est déclaré candidat à sa propre succession, très tard, quasiment au dernier moment. Par ailleurs, il y avait la guerre en Ukraine qui était là et qui... Oui, pour le coup, pesait sur les esprits, il faisait un peu peur. Bref, il n'y a pas eu vraiment de campagne électorale avec débat contre débat. Là, ce qui est important, c'est que pour tous les partis, pour toutes les candidatures, on soit vraiment dans une campagne, sinon apaisée, ça, il ne faut pas rêver, mais en tout cas, où on discute du fond, on discute des vraies questions pour les Français.
Et ce qui pourrait être une première, vous évoquiez Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'est pas un homme politique qui a... terrorisé, qui faisait particulièrement peur à la population. Là, on pourrait se trouver dans un schéma totalement différent avec deux candidats qui terrorisent une partie de la population, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Ce serait une première, des candidats aussi clivants. Vous évoquiez les débats à l'Assemblée nationale avec ses invectives. Vous pensiez bien entendu à la France insoumise.
Oui, bien sûr, insoumise. À la France insoumise, oui. Oui, de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Oui, enfin, pas lui-même à l'Assemblée. Oui, oui, vous avez raison. C'est vrai que c'est en tout cas ce que vous décrivez. C'est rendu, non pas probable, mais en tout cas pas impossible par les sondages. Enfin, en tout cas, tous les sondages s'accordent à dire que le candidat du RN, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Jordan Bardella, et d'ailleurs encore plus fortement si c'est Jordan Bardella, sera au deuxième tour. Malheureusement ou pas, selon la position dans laquelle on se place, ça paraît acquis. En revanche, qui y aurait en face, c'est vrai que la possibilité d'un Jean-Luc Mélenchon, puisque lui-même répète à l'envi son intention d'être candidat, oui, c'est une possibilité. Vous avez raison, c'est vrai qu'on aurait deux radicalités l'une face à l'autre. Mais justement, c'est ça qui rend d'autant plus important cette nécessité d'affronter, d'exposer les véritables problèmes et les solutions possibles, concrètes, pendant une campagne, là quand même, où tous les bords, en tout cas la majorité des bords et des courants politiques seront rassemblés en vue du premier tour. Et encore une fois, quoi, de débattre, de discuter, que les Français aient vraiment la possibilité de choisir en connaissance de cause.
Alors rappelons que Jean-Luc Mélenchon est un excellent candidat, il part à chaque fois de très bas et il arrive très haut, juste avant les élections. C'est en cela que je dis qu'il est un excellent candidat. Évoquons la politique étrangère du Rassemblement National. S'il était au pouvoir, ce qui, aujourd'hui, est une éventualité. Quelle serait la politique étrangère d'un exécutif RN? Est-ce qu'il existe des nuances entre Marine Le Pen, on l'a dit, qui pourrait être empêchée de se présenter, et Jordan Bardella? Tout d'abord, la réponse du député Philippe Ballard, et après vous réagirez.
Ah ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, puisque ce sera une diplomatie, encore une fois, où on se tiendra à équidistance des grandes puissances, une diplomatie telle que le général de Gaulle l'avait menée.
Aucune différence, Henri Vernet ?
Je ne pense pas que les dirigeants étrangers connaissent bien Bardella, même s'il a fait une tournée aux États-Unis. Il s'est d'ailleurs brouillé, on peut dire, avec Steve Bannon. Hein, vous savez, cette espèce d'idéologue américain très proche de Trump, en tout cas dans son premier mandat, qui pèse encore dans la famille MAGA et conservatrice américaine,
oui,
républicaine.
Il a dit que Jordan Bardella était incapable de sortir de la France de la crise. Serait incapable.
Oui, alors, exactement. Et il a pris position, si on peut dire, en faveur de Marine Le Pen, là, récemment, dans une émission de télévision. Alors, on peut dire qu'il rend la de sa pièce en quelque sorte à Bardella, parce que le même président du RN, il y a quelque temps, il était allé à une conférence aux États-Unis sous l'égide de Steve Bannon, et il avait quitté la conférence en quatrième vitesse parce que Steve Bannon avait fait un salut nazi. Et donc Bardella, soit par conviction profonde, soit parce que c'est vrai que c'est toute l'image de la dédiabolisation du RN, il avait absolument condamné ça, et donc il était rentré en France, ce en quoi Bannon l'avait traité de petit garçon. Donc il y a une animosité entre les deux. En tout cas, c'est vrai qu'on peut penser qu'il y a une espèce de proximité plus grande peut-être avec le RN de la part du pouvoir américain. Non, ce qui est certain, c'est que ce soit le Kremlin ou la Maison-Blanche, enfin quand je dis la Maison-Blanche, c'est plutôt le système MAGA trumpiste, ont vraiment tendance à jouer les extrêmes. Parce que Trump, J.D. Vance, le vice-président, Steve Bannon et consorts, c'est vrai que tous aspirent à une Europe qui passe aux mains de ces radicaux de droite, hein, de ces souverainistes totalement assumés. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des nuances entre les deux? D'abord, qu'est-ce que c'est la politique étrangère du RN, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella?
C'est une bonne question. Cette question, on l'a posée à Philippe Ballard. Écoutez.
Une politique étrangère qui ressemblerait énormément à celle qu'avait pratiquée le général de Gaulle en son temps. C'est-à-dire qu'on se tiendrait à équidistance de Washington, de Moscou et de Pékin. Ce qu'a fait donc le général de Gaulle quand il était au pouvoir. C'est un petit peu ce qui guide notre action. On n'a pas à être à la remorque des États-Unis. On n'a pas à être à la remorque de la Russie ou de la Chine, bien évidemment.
Mais le monde de 2026 n'est pas celui des années 60.
Ah non, là, il y a une instabilité géopolitique qui ne fait que grandir. C'est pour ça qu'il faut urgemment réaffirmer cette position de la France complètement indépendante, et y compris d'ailleurs de la position qui n'existe pas en fait de l'Union européenne. Enfin, que pèse l'Union européenne dans le conflit en Ukraine? Que pèse l'Union européenne? On verra ce qu'il advient du Groenland, de l'Iran, du Proche-Orient. Enfin voilà. Donc il faut retrouver une politique étrangère telle que le général de Gaulle l'avait pratiquée.
Oui, mais qu'est-ce qu'elle pèserait la France face à ces empires, face aux États-Unis, la Chine, face à ces blocs énormes qui n'ont que faire de nous?
Il faut déjà écouter la voix de la France. Entre parenthèses, je vais répondre directement à votre question, mais on s'est fait, virer d'Afrique, notamment de l'Afrique subsaharienne. Et évidemment qu'on est conscient des données chiffrées. Si vous prenez le budget de la défense, même si Emmanuel Macron veut encore l'augmenter, on ne s'opposera pas, bien évidemment. Enfin, le budget de la France, c'est 55 milliards d'euros. Donc, le budget militaire américain, c'est 900 milliards de dollars. Donc, il est évident qu'on ne joue pas dans la même cour. Mais il faut refaire entendre la voix de la France. Tout simplement, on est complètement inaudible.
Un dossier précis, par exemple, comme celui du Groenland, on va dire. Qu'est-ce que la France devrait faire face aux velléités de Donald Trump pour protéger ce territoire danois?
Là, c'est sûr qu'envoyer 15 conseillers militaires, ça peut faire un peu sourire, mais En fait, bon, Donald Trump, lui, c'est qui compte, c'est les intérêts des États-Unis avant toute chose. Donc, la diplomatie, c'est fait de négociation. Je pense que la voix de la France sonnerait en allant rencontrer, si ce n'est le président des États-Unis, mais au moins le vice-président ou leur ministre des Affaires étrangères. Le Groenland est un territoire danois, donc lié à l'Union européenne, et il faut déjà commencer par renouer le dialogue et pas laisser on ne sait qui au nom de l'Union européenne négocier pour nous.
Vernet, vous accueillez comment ces différents propos?
Je trouve que tout ça mérite vraiment examen, c'est-à-dire examen des faits, examen vraiment des positions qui seront présentées dans une campagne présidentielle, parce que ça, c'est quand même un peu l'ordre de vérité. Là, tout ce qui est dit, ça peut contenter tout le monde. Mais quand on regarde la réalité, c'est quoi? C'est que, par exemple, sur l'Europe, la ligne, elle a complètement varié, du RN Marine Le Pen, qui, à un moment, avait promis sortir de l'euro, voire de l'Europe. Ça a été évoqué, tout simplement, une sortie de l'Union européenne. Et ça, entre sa première et sa deuxième campagne présidentielle, enfin les deux dernières, parce qu'elle était également candidate en 2012, mais en tout cas entre 2017 et 2024, ça avait disparu, donc on ne sait plus très bien. Alors, maintenant on a compris que l'euro, ils ont bien compris qu'il vaut mieux, rester dedans et le garder. L'OTAN, pareil, la France dans l'OTAN, est-ce que c'est oui, c'est non? Là aussi, il y a des positions qui ont beaucoup varié. Donc on voit bien que c'est un peu difficile. Et puis surtout, là, quand il dit équidistance, d'accord, moi je veux bien, mais enfin, ce qu'on a vu quand même pendant un certain temps, c'était une admiration, mais vraiment totale, du FN et puis de RN, donc de Marine Le Pen elle-même, vis-à-vis de Poutine. On se souvient qu'elle avait quand même dû, en quatrième vitesse, détruire des affiches de campagne qui la montraient toute souriante aux côtés de Poutine, tout simplement parce qu'entre le moment où ces affiches avaient été conçues et le début de la campagne présidentielle, il s'était passé une chose, c'est que Vladimir Poutine avait envahi l'Ukraine. Donc évidemment, bon. Et alors,
ça, c'est un point fort de Jordan Bardella, par exemple, lui qui n'a jamais été pris en photo avec Vladimir Poutine.
Vous avez raison. C'est vrai que Jordan Bardella n'est pas comptable du passé, en quelque sorte. C'est vrai que, par exemple, ses errements par rapport à l'Europe, on ne peut pas lui en tenir rigueur. De même, ce que je évoquais tout à l'heure, les sorties racistes, antisémites du père, donc de Jean-Marie Le Pen, c'est pareil. Lui, désormais, il en est vraiment éloigné, même si la fille elle-même a fait son propre ménage. Donc c'est vrai qu'il y a cet aspect-là. En revanche...
Mais est-ce que c'est pas un danger aussi pour lui, le fait de se normaliser, d'apparaître presque comme un candidat qui serait un candidat, si je puis dire, normal?
Là, on vient bien d'entendre quand même que les fondamentaux, comme on le disait tout à l'heure, ils restent malgré tout ceux d'un populisme avec, encore une fois, cette priorité nationale. Mais tout ça doit s'argumenter. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même les deux, finalement, par rapport à l'Amérique de Trump, par exemple, là, ce que j'ai entendu de la part de Philippe Ballard, c'est quand même pas une réticence totale, comme voudraient l'assumer les Européens. Alors, ils voudraient, parce qu'on verra bien quels moyens ils auront en réalité. Mais là aussi, il y a quand même une certaine, mais je l'ai dit tout à l'heure, une certaine proximité spirituelle, politique, programmatique avec un Trump. Mais donc, quelle serait cette politique étrangère? De même, là où il y a eu un retournement quand même très spectaculaire, c'est que vous évoquiez le Proche-Orient. Là, en la matière, le RN, désormais, c'est vraiment le meilleur ami d'Israël. C'est le grand protecteur. Ils sont les premiers à dénoncer l'antisémitisme réel ou supposé chez tel ou tel parti, évidemment, à commencer par LFI de Mélenchon en France. À l'extérieur, ils affichent vraiment ce soutien total à Israël.
Et c'est un changement majeur par rapport à la politique de Jean-Marie Le Pen, par rapport à la vision de ce qui était le Front National. Et c'est ça qui est intéressant.
C'est tout à fait nouveau. C'est vrai que c'est porté également par la FI. Alors là, le député comparait un peu vite ce que serait une présidence RN avec l'héritage de Gaulle. Alors ça, de toute façon, c'est un travers de tous les politiques français. Nul n'a la stature de Gaulle, mais il y a cette image qui revient en permanence.
Sur l'image du Rassemblement National, quand je parlais avec vous de potentielle normalisation, le danger pour ce parti de rompre avec la classe populaire française. Quand vous voyez Jordan Bardella avec une princesse, par exemple, est-ce que ça peut vraiment lui être nuisible, néfaste ?
C'est un risque, parce que c'est vrai que lui qui revendique, en effet, il se revendique comme le héros des Français qui se sentent méprisés, qui sont peut-être d'ailleurs méprisés parce qu'il appelle les élites. Quand on se veut comme ça, quand on met en avant son essence populaire, notamment sa jeunesse, son enfance en Seine-Saint-Denis, alors qu'on sait en réalité que c'était en effet le cas de sa mère, mais que son père, lui, est un petit chef d'entreprise assez aisé. Néanmoins, c'est la carte qu'il joue, et aussi la carte du petit-fils d'immigrés de famille ouvrière italienne, justement, comme la princesse en question. Bah, c'est vrai qu'il y a tout un monde hein, entre la banlieue ouvrière de Turin, d'où est originaire une partie de sa famille, et cette princesse, cette jet-setteuse, hein, membre du Gotha et en plus très, très riche. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a un fossé. Ces images-là, cette soirée du Figaro, elles coïncident avec le premier jour du procès de Marine Le Pen. Elle se trouvait dans une toute autre situation. Elle était à ce moment-là, elle était également invitée à la soirée du Figaro, mais elle n'y était pas allée. Au soir du premier jour du procès, elle était avec ses avocats en train de voir un petit peu les stratégies. Enfin, vraiment dans une épreuve. Là, on sent quand même un décalage d'image entre les deux potentiels candidats. Est-ce que tout cela va tenir longtemps ? Est-ce que cet attelage, parce que pour l'instant, la tête du RN bicéphale affiche encore une certaine entente, une complémentarité des rôles. Marine Le Pen l'a répété à moult reprises, et encore récemment, entre Noël et le jour de l'an, il était tout à fait envisageable qu'elle laisse la place à Jordan Bardella, qu'elle l'acceptait si elle était empêchée. Mais est-ce que cette bonne entente, qui impliquerait également le rôle que jouerait une Le Pen si elle ne pouvait pas se présenter elle-même, quelle serait sa place dans le dispositif ? Est-ce qu'elle resterait dans le jeu ou est-ce que finalement elle se retirerait ? Bref, tout ça, tout ce qui est en train de se jouer actuellement, est-ce que ça résistera en réalité au fil du temps, au fil des mois et même des semaines ? Parce qu'on sait quand même que la politique, en politique, les coups bas entre amis dans une même famille politique, ils sont nombreux. C'est le lot quotidien des politiques.
Et est-ce que Jordan Bardella, on aurait besoin de Marine Le Pen si elle était empêchée de se présenter ?
Oui, sans doute, parce que ce qui lui manque cruellement, c'est l'expérience. Parce qu'on voit bien qu'il y a une certaine fragilité, par exemple quand il surréagit à son enfarinage alors qu'il est en train de signer son livre dans une librairie, quand il réagit vraiment extrêmement maladroitement quand Roselyne Bachelot se moque de lui justement à propos de Trump en lui disant qu'il lui cirait les pompes à une émission de télé.
À la question « qu'est-ce qui vous marque chez cet homme ?» Et ben, à deux reprises, pour deux personnalités différentes, il répond exactement la même chose. Et voilà, et c'est ça qui a amusé Roselyne Bachelot, et à ce moment-là, Jordan Bardella a dit à Roselyne Bachelot qu'elle était inélégante.
Oui, puis on voit bien qu'il ne maîtrise pas tous ses dossiers, y compris dans la dernière législative où quand même il faisait figure de Premier ministre potentiel. C'est la carte que jouait le RN, donc dans la campagne législative de 2024, après la dissolution, à deux, trois reprises, il a été pris en flagrant délit de méconnaissance des dossiers et des questions. Donc, il lui manque cette expérience, et cette expérience, cette patine, cette connaissance intime du système politique est quand même assez réelle, assez forte de la France qu'à Marine Le Pen et que donc elle pourrait lui apporter. Donc oui, clairement, il aurait besoin d'elle.
Diriez-vous que sa popularité est plus fragile que celle de Marine Le Pen ?
Vous avez raison, c'est une vraie question parce que c'est comme toutes ces popularités qui montent très vite. Parce que on l'a pas dit, mais enfin, il faut pas oublier que Bardella, il a 30 ans, il aura 31 ans à la présidentielle en 2027. Il ne connaît que la politique, hein, il a fait que ça. Alors justement, Marine Le Pen dit bah oui, mais enfin, au moins ça fait 15 ans qu'il en fait parce qu'il a été militant très jeune, élu local et puis donc premier mandat européen en 2019 hein, comme tête de liste. Donc il ne connaît que la politique, mais disons que il la connaît assez bien. C'est C'est vrai aussi que par rapport à la jeunesse, on dit oui, mais enfin, Macron, il a été élu à 39 ans, et qu'est-ce qu'il connaissait, la banque d'affaires, ou Gabriel Attal, il devient Premier ministre à 34 ans.
Voilà, mais Macron, qui avait été secrétaire général adjoint de l'Élysée, qui avait été ministre de l'économie également.
Et Attal était député, mais enfin, disons que la jeunesse, maintenant, on commence à connaître. Mais bon, ces explosions comme ça de popularité, c'est vrai que l'expérience a montré que ça peut retomber assez vite. Néanmoins, si c'est porté, comme c'est le cas vraiment actuellement, par tout un parti, un parti qui est quand même celui qui aujourd'hui rassemble le plus de Français, en tout cas potentiellement, d'électeurs. Donc si tout cela dure, et il y a toutes les chances pour eux que ça dure, si justement Marine Le Pen est empêchée, c'est une popularité qui pourrait durer. Alors après, se posera la question d'une campagne. Une campagne présidentielle, c'est quand même long, c'est difficile, c'est parsemé d'obstacles, d'embûches. Donc c'est là qu'il faut éviter les faux pas. Mais le personnage Bardella, sa construction, il a fait 2 livres en moins d'un an. Les 2 livres ont été des best-sellers. Il a une présence médiatique très forte, parce que tout cela est relayé quand même par un système très important qui est le groupe Bolloré, avec des médias télévisuels, écrits, avec donc... de l'édition. Tout ça est là justement pour installer durablement, solidement cette popularité.
Reste la question d'un éventuel front républicain, même si ce mot est parfois galvaudé, mais cela reste une hypothèse. Si une partie de la droite, du centre, l'ensemble de la gauche appelle à se mobiliser et à voter pour son adversaire.
Il est galvaudé, mais enfin, on a vu qu'en 2024, au deuxième tour, entre le premier et le deuxième tour législatif, il a marché. Il y a bel et bien eu un front républicain. Alors, c'est vrai que depuis les déclarations des uns des autres, les sondages montrent que les gens, a priori, ne seraient pas prêts à d'une part, pour les politiques, à repartir sur un front républicain, et pour les électeurs, à se plier à ce jeu-là. Donc, c'est vrai qu'on peut douter de la solidité d'un futur Front républicain. Encore une fois, la radicalisation dont je parlais, elle est vraiment passée par là. Et donc, ça marque les esprits. On a bien vu, de toute façon, depuis 2024, je ne vais pas répéter, mais enfin, le spectacle politique est tel que l'idée d'avoir un front dans un sens ou dans l'autre paraît difficilement imaginable.
Merci beaucoup, Henri Vernet.
Merci à vous.
C'était Coulisses politiques avec le journaliste et écrivain Henri Vernet. Merci à vous, chers auditeurs, et excellente suite des programmes à l'écoute de Radio Orient.
C'était Coulisses politiques avec Henri Vernet, présenté par Nadia Bencher.